personnalité qui est face à nous sur le plateau du Mont Gourir.
Oui, le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, c'est Congo, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais vous êtes né au Congo, dans la forêt, comme Mowgli, direz-vous, le Congo. Vous avez vécu 2 ans, et je parlais de Mowgli. Vous aimez aussi beaucoup les animaux. Vous collectionnez petit tout un tas de bestioles dans votre chambre. Vous avez même pensé un jour à devenir éthologue. Vous devrez finalement vous contenter d'être une belette rayonnante, votre totem chez les scouts. Et comme on parle d'enfance, je voulais vous passer une musique qui va vous renvoyer en enfance et plus particulièrement vous faire penser à vos parents.
Ma maman s'appelle Yvette, papa Léon. Moi c'est Girouette, le caméléon. Quand je vais chez n'importe qui, je change d'avis.
Une chanson qui reste bien en tête. Deuxième autre portrait, Nico, c'est dessin.
Oui, comme on parlait de crawl sans parler de dessin. Le dessin qui a commencé très tôt chez vous. Votre mère prétend même qu'à votre berceau, vous aviez maculé le mur de votre caca. Alors, histoire vraie ou pas, en tout cas, vous dessinez depuis toujours chez vos tantes, à l'école. Et parlons-en de l'école, puisque vous avez eu un nombre incroyable de punitions avec toujours ce commentaire. Votre fils n'écoute pas, il dessine tout le temps. Vous avez bien fait de ne pas les écouter, puisqu'aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que vous décryptez l'actualité en dessin. Le dessin qui vous a aussi permis de faire de la télé, de rencontrer des gens importants, même Paul Naref, de croiser des politiques et par-dessus tout d'être invité ce soir dans Le Monde Orient.
Ouais, par-dessus tout évidemment. Dernier mot de ton portrait, Nico, c'est Monde.
Oui, Monde et surtout Dans quel monde on rit, nouvel album de Pierre Kroll, une compilation de 300 dessins parus dans Le Soir, dans le Ciné-Télé-Revue, dans le Courrier International, sur Arte, des inédits, puis des dessins refusés aussi. Et l'actualité, il y en a eu entre un premier ministre belge séparatiste flamand, un Georges Boucher, partout, tout le temps, deux guerres abominables tous les jours dans l'actualité, mais aussi Musk, Trump, Poutine, Netanyahou, Ben Salman, l'extrême droite, le populisme, l'intelligence artificielle, un premier pape américain ou encore des records de chaleur et un tour de France de mutants. Et en fait, il y a deux moyens de savoir qu'on approche de Noël. Il y a le nouvel album de Kroll et ça.
Alors, c'est pas encore Noël, mais on a la chance d'avoir déjà Pierre Kroll avec nous. Bonsoir, Pierre Kroll.
Bonsoir, merci pour votre travail, parce que tous les éléments biographiques sont justes, ils viennent pas tous d'un même interview. Vous avez
remarqué
ça à plusieurs endroits.
Non, c'est sûr que tu travailles.
Vraiment,
ouais,
c'est
sûr.
Merci d'être là pour ce nouvel album, on l'a dit, hein, Dans quel monde on rit. Déjà, rien que pour le titre, c'est déjà gagné. Pierre Kroll, publié d'édition Les Arènes, un titre qui résume bien le métier de dessinateur de presse aussi, Pierre Kroll, Dans quel monde on rit.
Oui, ça résume plutôt l'année, ce qui est en train de se passer. Oui, un petit mot, la boutade, c'est bon de dire que quand arrive Noël, il y a mes... Bon, chaque fois, je réponds la même chose. Il y a peu de gens qui font le bilan d'une année le 17 mars, hein, ou ça, le 3 avril. Hein, c'est quand même en fin d'année qu'on fait ça. Alors, je publie aussi des agendas, c'est pas pour le caser,
ça,
mais ça aussi.
C'est pas mal Marie Carré et Pierre Kroll, ce...
Oui, oui, c'est ça. Non, mais cette année, j'ai vraiment fait un truc qui est vraiment pour Noël, c'est un calendrier de l'Avent. Ouais. À la demande de Jean Galère, les boulangeries chez Blanche, je sais pas combien il y en a à Bruxelles, mais voilà, c'est un calendrier qui se présente comme un gros album, et dedans il y a des petites cases avec des petits gags, mais derrière les petits gags il y a des chocolats, voilà. C'est un peu pour jouer, hein, c'est pas des milliers d'exemplaires.
Pour
ça c'est clairement Noël.
Pour revenir à ça,
mais le titre, j'ai toujours du mal à trouver un titre pour des albums qui doivent dire qu'une année a été écoulée avec des tas de choses qui se sont passées dedans, mais pas la même chose. Certaines fois, il y a des Jeux Olympiques, il y a des... Bah, ici, il y a deux guerres, il y a tout... Mais il y a quand même souvent un lien commun qu'on peut faire. Et ici, il y en a un, c'est cette... au dos de la couverture, j'emploie cette phrase, quelque chose se passe. Je sais bien, il se passe quelque chose tout le temps, ou aujourd'hui, il se passe quelque chose demain, hein, mais... C'est à la fois ça le métier, hein, pour vous répondre, oui, c'est un peu un résumé du métier, et aussi de voir des gros changements. Et cette année, franchement, vous allez voir en fin d'année, le nombre de gens qui vont faire des bilans philosophico-sociologiques et tout sur une année charnière, quoi, où tout, la démocratie américaine est en train de s'effondrer, tous les rapports internationaux dans le monde, sont, quand ils ne sont pas des guerres, sont en tout cas faits avec une brutalité incroyable du plus fort, etc. On réarme la Belgique, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous dise qu'on a acheté 3 drones, un avion, un sous-marin. Mais enfin, où est-ce qu'on est, quoi? Où est-ce qu'on est? D'où ce titre, Dans quel monde on vit? On connaît l'expression. On peut y mettre un point d'interrogation. Moi, je ne sais pas dans quel monde on vit, je n'arrive plus à suivre. Ou un point d'exclamation, dans quel monde de fou on vit. Et pareil avec Henri. Et chacun des petits personnages dessinés sur la couverture, j'espère que vous avez tous retrouvé qui c'était, c'est un jeu, sont chacun sur la terre. Chacun pense que c'est sa terre et sa manière de le voir, de la comprendre à lui qui est la bonne.
Et justement, parlons de cette couverture aussi, parce qu'on reçoit, on reconnaît en tout cas plusieurs dirigeants étrangers. Et puis en tout petit, en haut à droite, on a deux Belges, Bardo Ever et Georges-Louis Boucher. Ça montre aussi que l'actualité internationale, il n'y a rien à faire, elle occupe plus de place aujourd'hui dans nos vies à tous.
Oui, en ce moment, oui, je crois, parce que, vous savez, moi, je suis une, comment on va dire, un thermomètre, une éponge, enfin, ce que je fais dépend de ce que les médias disent ou ne disent pas. Et il y a eu des années où mes livres étaient 80% en fait de politique belge, parce qu'on avait une crise gouvernementale interminable, etc. Ça y en a encore,
mais mettons,
on s'y est fait.
Il y en a toujours.
C'est un événement, je ne sais pas.
C'est un marronnier, quoi.
À Bruxelles, il n'y a plus personne qui se demande, même si on en aura un, le gouvernement, tout le monde s'en fout, je crois.
Dans cet album, on retrouve forcément de nombreux dessins de Donald Trump. On va en voir un, notamment à l'image. On voit deux personnes sur leur canapé, l'une disant c'est la saison 2, l'autre disant ça va être passionnant. Quel regard de dessinateur, justement, vous portez sur ce Trump 2.0?
Ben, j'allais peut-être justement vous en parler quand vous disiez est-ce que c'est toujours un plaisir. Il ne faut pas croire que dessiner Trump est toujours un plaisir. Bien sûr, il est facile à reconnaître. Il y a un petit plaisir, on va faire une caricature
et il donne de la
matière, un peu méchante. Oui, oui. Mais c'est ça, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et donc, il y a de nombreux jours où je me dis, bon, il a encore fait parler de lui aujourd'hui pour ceci ou ça, mais je ne vais pas le dessiner. Non pas que mon boycott va changer quelque chose et qu'il va se dire, il faut que je fasse moins parler de moi parce que sinon on croit en a marre. Je crois qu'il s'en fout. Mais c'est pas un cadeau, Trump. Ce n'est plus un cadeau. En plus, il est tellement outrancier en tout, dans les décisions qu'il prend, dans la manière qu'il a de les présenter, de parler, etc., qu'on ne sait plus caricaturer des gens pareils. Si vous voulez que je fasse, moi je dessine plutôt les conséquences parfois de ce qu'il fait.
Ou juste ce qu'il fait réellement sans caricature, finalement. Ça suffit à lui-même, ses actions.
Oui, oui, complètement, complètement. Et donc, si on s'étend, j'ai l'impression, bon, je n'ai pas fait d'analyse précise, vous dire est-ce que c'est plus fort que d'autres fois, mais j'ai quand même l'impression que cette année, on ne parle que de gens qui sont des caricatures d'eux-mêmes. Hein. Les deux petits Belges là, que j'ai mis, Bardo Ever et Georges-Louis Boucher, c'était pour montrer qu'il y a de l'actualité belge, mais aussi, ils sont aussi d'une espèce nouvelle. Moi, j'ai connu des hommes politiques très sérieux, des hommes politiques très gueulards, etc. Bon, là, on a un paradoxe. Il y en a un, il n'a qu'un objectif avoué depuis 25 ans, c'est la fin de la Belgique, et il en devient le chef. Enfin, je sais pas, moi, je sais qu'au Standard, on est allé chercher des entraîneurs parfois un peu incompétents, mais ici, on se demande à quoi il joue. Et puis l'autre, Georges-Louis Boucher, c'est tout le temps le conflit dans un pays dans lequel on dit que notre plus grande capacité politique, c'est d'arriver à faire des accords tout le temps. Lui, il va finir par ne pouvoir en faire avec personne, puisqu'il se fait détester par tout le monde. Donc, on est vraiment au milieu de caricatures, de gens qui sont des caricatures.
La culture du compromis, évidemment. On va revenir sur Donald Trump, parce qu'il y a évidemment une scène hallucinante à la Maison-Blanche que vous avez mis en dessin. C'est évidemment cette scène totalement lunaire d'un Zelensky humilié par Donald Trump. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que dessinateur de presse quand on assiste justement, peut-être en direct, à cet événement-là que vous avez mis justement en dessin, qu'on voit à l'écran?
Ben, on se dit qu'on assiste à quelque chose qui est rare, qui est impressionnant, encore une fois, qui est déjà une caricature.
C'est ça. Hein.
Parce que c'est écrit comme un sketch, quoi. Vous auriez pu vous habiller correctement, venir ici. Enfin,
il est en guerre.
Et comment est-ce qu'on va pouvoir caricaturer ça? Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que tout le monde l'a déjà vu? Donc là, je suis même parti un peu trop loin. Je ne sais pas si ce dessin est tellement pertinent que ça, aller mettre en Gilles de Bain. Je pars un peu dans le délire.
Mais parce que cette scène est délirante.
C'est ça que je peux faire, oui.
Cette scène est délirante, effectivement. Cette année, elle a encore été toujours marquée par la guerre. On va voir ce dessin très fort aussi que vous avez fait. On va le voir dans un instant à l'image avec l'armée la plus morale du monde, entre guillemets, bien sûr. C'est toujours aussi dur. Alors déjà, nous, en tant que journalistes, de traiter de ce conflit, c'est dur. En tant que dessinateur, ça l'est autant.
Complètement, évidemment. Parce que, déjà, le sujet n'est pas nouveau. Avant le 7 octobre et puis la vengeance, faut bien dire aussi, qui a eu lieu si longtemps à Gaza, les choses ont pris encore des dimensions plus grandes. Et donc, je ne vais pas dire le danger, la certitude de déplaire à des gens est immense. Donc moi, j'ai tout ce que je demande qu'on comprenne, c'est que je fais mon métier de documenter le présent, de dessiner. Voilà. Aujourd'hui, il se passe ça, il y a un cessez-le-feu, il va pas être. Je ne peux pas résumer 2000 ans, par exemple, de si loin, du conflit israélo-palestinien dans un dessin. Mais à tous les coups, les gens vont prendre ce dessin, quoi qu'ils disent, comme étant fait pour soutenir un camp ou un autre, pour dire que je suis avec un tel, pas avec un. C'est pas vrai, moi je dessine des faits et il y a mon opinion parfois dedans, mais sur des affaires comme celle-là, mon opinion, c'est juste d'être écœuré par la souffrance. et des uns comme des autres, des uns comme des autres. Mais il n'y a plus de place pour dire ça. Vous pouvez plus dire, mais c'est horrible ce qui se passe là-bas. Non, 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 il faut dire c'est horrible à cause des Palestiniens qui l'ont, ils l'ont bien cherché, ou c'est horrible parce que les Juifs sont épouvantables en Israël. Je pense qu'il y a une autre lecture possible, c'est celle que j'essaye de montrer, et qui est pourtant la plus naturelle.
Est-ce que parfois on hésite, parce que vous avez eu encore des soucis, je pense, cette année, avec un dessin qui a été jugé offensant par certaines personnes? Vous êtes déjà fait traiter aussi d'antisémite, vous, Pierre Kroll? Parce que parfois on se dit, mais pourquoi est-ce que je m'emmerde à faire ce dessin-là, quand je sais que dans tous les cas, il peut être exceptionnel? Moi, je vais ramasser.
Oui, ben, il faut essayer de ne pas y penser. Quand on le fait, et se dire, est-ce que... Je vais prendre un bête petit exemple de ce que peut être l'autocensure. C'est que je fais mon dessin vers 18h, 19h, quelque chose comme ça. Si j'ai une soirée, moi, que je compte aller au cinéma ou chez des amis, je vais me dire, bon, ce dessin-là, pff, je vais faire plus passe-partout, parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle à 10h. Voilà. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que la notion de est-ce que ça va passer, ce dessin, elle est devenue permanente. Soit est-ce que mon journal va l'accepter, généralement, je suis bien dans le journal dans lequel je suis, sinon je n'y serai plus. Mais est-ce que ça va passer auprès du public? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il...
Ça vous touche,
on ne se posait pas ces questions-là
les
avant.
Les critiques, ça vous touche? Notamment parce que antisémite, c'est un mot...
Ah oui, celle-là me touche vous. Terriblement. Il y a des années que j'essaie de lutter contre cette injure, cette insulte. Je ne vais même pas insister sur le fait que je ne la mérite pas, mais
on est d'accord, hein.
elle est complètement instrumentalisée, et c'est absolument insupportable parce qu'elle est grave. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a un avant et un après, pas exactement Charlie Hebdo et tout si on veut, mais enfin, en tout cas, au début de ma carrière, qui était un peu longue maintenant, j'avais plus le sentiment, comme un chanteur, de faire des dessins pour mon public. Un chanteur, il essaie pas de s'adapter à tout le monde, hein. Il est dans du rock ou je sais pas. Hein.
Bon. Là, vous êtes mainstream. Et, donc,
voilà. Ouais. Ben maintenant, ici, c'est la même chose quand je fais un dessin. Moi, c'est pour les lecteurs du soir, pour ceux qui ont déjà vu des dessins de moi, qui me connaissent, peut-être pas qui savent que je m'appelais Belette Rayonnante et tout, mais enfin, ils ont déjà vu Pierre Kroll, j'existe. Mais non, le dessin après est une chose qui va être l'objet de toute manipulation.
Comme ça, tous les gens sauront que vous êtes une Belette Rayonnante aujourd'hui.
Bon, il faut arrêter avec ça, parce que c'est
cette comme... émission. Et puis, il y a aussi du belge, bien sûr, dans cet album, Pierre Kroll, avec forcément un certain Bardo Ever. Avoir, comme vous le dites, un premier ministre belge séparatiste flamand, c'est du pain béni pour un dessinateur belge?
Du pain béni, je sais pas, mais j'aime bien le rappeler de temps en temps, effectivement. Ça, j'aime bien de temps en temps faire... Encore tout récemment, un dessin qui est trop récent pour être dans l'album, c'est... le roi Philippe, quand il vient demander 50 jours là, pour trouver un budget et tout, qu'il n'a pas besoin de faire d'ailleurs, parce que c'est pas... On consulte le roi quand on consulte le gouvernement, pas quand on fait un budget. Donc c'est un peu de la mise en scène. Et j'aime bien faire Philippe qui lui dit, mais vous n'étiez pas séparatiste, mais on fait... Ne revenons pas là-dessus. Parce que je connais pas le fond de l'histoire. Je sais pas s'il calcule tout le temps que si des choses échouent, c'est tant mieux. Il pourra dire que ce pays est ingouvernable et qu'il faut aller plus loin dans la séparation des régions. Ou bien, si ça marche, pouvoir dire, regardez, je suis le seul capable de faire tourner la boutique. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, je ne sais pas. Donc nous, on peut prêcher le faux pour savoir le vrai dans les dessins. On peut prétendre quelque chose, on verra bien ce qu'il
en
sera.
En tout cas, vous revenez sur plein d'éléments factuels aussi, notamment, vous le mettez beaucoup dans cet album, cette référence au budget qu'on avait prévu pour la défense, avec aussi un petit Théo Franken. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dessins là-dessus? Ça vous a vraiment fort impacté, touché, interrogé, justement, cette course à l'armement?
Franken est encore relativement amusant à dessiner, je dois bien le dire.
C'est la défense qui dit qui arrive pas à dire vivre la Belgique. J'imagine que pour vous, c'est... vous prenez ça.
Bah oui, bien sûr. C'est encore. Je comprends pas bien les gens, moi. Je les imagine à ma façon. Alors.
Cette année 2025, vous l'avez évoqué, elle a aussi été marquée par un triste anniversaire. Le 7 janvier 2025, on le rappelle, 10 ans plus tôt, jour pour jour, un attentat terroriste ensanglanté, Charlie Hebdo. C'est une date qui restera jamais gravée dans votre mémoire, on imagine. Comment vous avez abordé votre dessin? On va le voir à l'antenne. Mais comment vous l'avez abordé 10 ans après ce terrible drame?
En essayant, et je l'ai fait, j'ai pas attendu 10 ans pour le faire, lorsque j'évoque ce qui s'est passé, de le refaire avec humour, parce que l'humour est un peu au centre de tout ça, c'est qu'on ne pouvait pas faire de l'humour à propos du prophète et le dessiner. Donc la meilleure réponse, s'il en faut une, à ça, quand on doit en dire quelque chose, dire à quel point c'est grave, à quel point c'est dangereux, à quel point ça marque une époque, un changement, etc., tout le monde l'a fait. Nous, dessinateurs de petits dessins d'humour, faisons un petit dessin d'humour là-dessus. Et celui-là, il m'est venu très facilement. Tiens, ça fait 10 ans. Je crois qu'après l'anniversaire de 5 ans, quoi, il y a quelqu'un qui dit serait pas temps qu'on s'abonne parce que ça a l'air marrant ce journal. Donc faire un peu comme si ces gars-là étaient très cons, très méchants, c'est sûr, mais peut-être aussi un peu limité.
Et le dessin est très marrant d'ailleurs. Sur le quatrième de couverture, vous dites le rire est une résistance. Le dessin, c'est une résistance aussi ?
Oui, je crois qu'il y a une autre comparaison qui est faite parfois plutôt que la résistance, c'est le canari dans la mine. Vous savez, on utilise beaucoup cette métaphore-là. Mon amie Charline Vandenacker vient d'écrire un livre qui s'appelle
comme ça, en parlant
de l'humour en général. Et donc l'histoire du canari, c'est que les mineurs prenaient des canaris dans une cage et l'animal est très sensible au gaz toxique, donc quand ils crevaient, ça veut dire qu'eux vont crever après. Et les dessinateurs de presse, sans être des grands héros, vraiment, on est juste des petits rigolos, quoi. Mais quand on nous attaque, nous, ça veut dire qu'après, ça va être les journalistes qui pourront plus écrire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est absolument certain, c'est très vérifiable. Et la résistance, ben, c'est de continuer quand même à tenter de rire des choses, quoi, parfois.
Pierre Kroll, merci encore d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc ce nouvel album à mettre bien entendu sous le sapin. Ça s'appelle Dans quel monde on rit, et pas que d'ailleurs, hein, c'est publié aux éditions Les Arènes. À très bientôt sur Hélène 24.
À bientôt Pierre Kroll, c'est déjà la fin de cette émission.